Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue sur Accent. Alors s'il a disparu de la scène politique grecque, il est désormais le héros d'une BD. Le combat de 6 mois de Yanis Varoufakis contre les ministres des finances de la zone euro est retracé en bulles. L'ex-turbulent ministre du gouvernement de Tsipras y est représenté menant bataille contre un Allemand maléfique, Wolfgang Schäuble, qui veut livrer les Grecs au minotaure de l'euro-austérité. Son auteur, Ariadne Chrysakoussela, assume le parti pris et elle a choisi d'appeler son ouvrage « Wow », expression souvent utilisée par Varoufakis. C'est le reportage de Charlotte Siednar.
Dans la librairie Yanos, au centre-ville d'Athènes, ils sont une petite centaine à être venus assister à la présentation de la bande dessinée d'Ariadne Chrysakoussela. Wow est la première BD de cette metteur en scène âgée de 38 ans. L'idée lui est venue l'été 2015, juste après que le premier ministre grec Alexis Tsipras a accepté un troisième plan d'aide et les mesures d'austérité qui vont avec.
Le point de départ, ça a été la crise économique, politique et sociale en Grèce, avec ce point culminant, la tricherie du référendum. J'étais tellement en colère, nous étions tous debout sur les marches de la place Syndagma, certains des manifestants pleuraient même. On avait tellement revendiqué. Heureusement, moi j'ai transformé cette rage en créativité.
La BD débute par la fin. On y voit Yanis Varoufakis dans son bureau, juste à la fin de son mandat. Pour l'auteur, c'était le héros idéal pour raconter l'espoir vécu par une partie des Grecs lors de l'arrivée de la gauche radicale au pouvoir.
C'est une personnalité à part, il a son propre style, il est assez proche des gens et en fait il fait partie des rares politiciens sans garde du corps. Il se promenait librement dans la rue. Ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est l'agacement qu'il provoquait chez les hommes politiques qui le critiquaient pour ses chemises, sa moto. J'ai trouvé ça intéressant, mais ce n'était pas l'essentiel. En fait, je l'ai choisi parce que je pense qu'il a mené un combat sincère, qu'il a dû faire face à des situations difficiles dans le pays et à l'étranger, et au moins jusqu'ici, il n'a pas changé de position.
Pour appuyer son propos, Ariadne Chrysakoussela a choisi des scènes surréalistes qui se passent pour certaines dans un labyrinthe sous la menace du Minotaure. Elles ont été inspirées du titre du livre de Yanis Varoufakis, Le Minotaure planétaire. Mais la chronologie reprend des événements et des rencontres qui ont réellement eu lieu entre Yanis Varoufakis et les créanciers du pays, en quelque sorte les gentils contre les méchants. Ariadne Chrysakoussela assume son parti pris.
Je ne prétends pas savoir toute la vérité, je pense qu'il n'y a pas de vérité complète. Mais la BD est un moyen d'expression de la culture. Dans une démocratie, les artistes doivent aussi parler de ça. Pour moi, c'était une obligation de ne pas me reposer uniquement sur ce que disent les médias, les journalistes ou les hommes politiques. Je réponds ainsi au système qui a détruit sa jeunesse et aux hommes politiques qui nous ont piétinés.
L'homme politique n'est cependant pas complètement étranger au projet. Ce soir-là, Yanis Varoufakis est présent dans la librairie. Contacté par l'auteur en cours de création, il explique comment il a participé.
Je voulais simplement être à leur disposition quand ils me demandaient par exemple « ça, tu l'as dit comme ça ou comme ça ?» Quand ils me demandaient de leur interpréter quelques textes de Nash, de Keynes ou de Marx, je l'ai fait avec mon point de vue. Ça a été un plaisir d'avoir ce genre de relation sans intervenir véritablement.
Une lectrice convaincue, Argyro Koukoula, conseillère financière de 59 ans, est justement venue lui demander un autographe. Pour elle, la BD a un message politique qu'il faut porter plus loin.
Moi, je pense qu'il faut le traduire en allemand, c'est important, je l'ai dit. Je ne savais pas qu'il était sorti en anglais, mais je pense que c'est plus important de l'exporter en Allemagne.
Car la bande dessinée a aussi quelques scènes qui décrivent bien la réalité des Grecs. Avec l'auteur, le dessinateur Dimitris Sotirakis, Gymkos, a donc choisi un style en adéquation avec l'ambiance générale.
Le style en général, les couleurs, le travail au crayon, c'est une idée que nous avons empruntée à un auteur de BD sur Batman, Death by Design. C'est Ariadne qu'il avait trouvé dans une librairie. On a bien aimé la technique. Avec ses tons de gris, cela donnait une atmosphère plus sombre. Et justement, en ce moment, nous vivons une époque bien grise. Ce n'est ni tout noir, ni tout blanc, ce n'est pas aussi clair, tout est confus. Les gens ne savent pas ce qu'il se passe exactement. Ils ont l'impression de stagner.
Un deuxième tome est en cours de préparation. Il se veut plus positif pour la Grèce et l'Europe, explique Ariadne Krissakousella, comme une sorte de renaissance après le chaos, dit-elle.
Et ce premier album qui a été tiré à 3000 exemplaires est un succès. Il devrait donc être réédité. En Croatie, les habitants des îles de l'Adriatique se révoltent contre le tout-tourisme. Au sein d'une association, le mouvement des insulaires, ils dénoncent leurs conditions de vie plutôt difficiles pendant l'hiver, dues au manque de services publics. Laurent Gélin.
Longtemps, les îles de l'Adriatique sont restées un monde de bergers et de caboteurs qui peinaient à tirer quelques céréales de leurs parcelles brûlées par le soleil. Depuis la fin du 19e siècle, les Dalmates partent chercher fortune vers le Nouveau Monde, mais ces dernières décennies, la baisse de la natalité a vidé les vieilles maisons et la crise économique a accéléré la casse des services publics. Alors les habitants de Brač, Hvar, Korčula, Vis, Mljet ou Lastovo, réunis dans un mouvement des îles, entendent aujourd'hui inventer un nouveau modèle de développement durable et solidaire qui ne soit pas exclusivement basé sur le tourisme. Fin octobre, leurs représentants ont accosté à Split sur le continent à bord d'un vieux voilier en bois. Celui-ci arborait une immense banderole demandant aux autorités « Entendez-vous vos îles ?». Depuis plusieurs mois, les insulaires se sont mis en réseau, ils organisent des navigations festives d'une île à l'autre et se rencontrent régulièrement pour faire le point sur leurs problèmes et leurs revendications. Ils cherchent à relancer l'agriculture ou la construction navale sur des îles où le tourisme représente souvent la seule activité économique. Ce mouvement, encore inédit, traduit aussi l'émergence d'une nouvelle population éduquée dans les îles qui a souvent vécu en ville avant de décider de revenir s'installer sur la côte, des néo-insulaires à la croate, bien décidés à prendre leur destin en main.
C'est une tradition typiquement islandaise, peu importe le temps avant de se rendre au travail. Quoi de mieux que de piquer une tête dans l'une des nombreuses piscines chauffées grâce à la géothermie? Il faut dire que sur l'île, les piscines ressemblent davantage à de grands centres balnéo où les Islandais ont l'habitude de se retrouver quotidiennement. Et c'est le reportage de Margot Emmerich.
À 18h à Vesturbyarlok, c'est un peu l'heure des retrouvailles. À l'extérieur, le thermomètre ne dépasse pas les 5 degrés, mais dans le grand bassin, l'eau bouillonne à 38. Alors la journée de travail terminée, Peter est venu se baigner comme toutes les semaines avec sa femme et ses deux enfants.
On a quelque chose à faire. Ça fracasse un peu.
It's a nice place to stay. It's warm and.
C'est un endroit agréable où il fait chaud. C'est un peu comme aller se faire faire des soins. Ça permet d'évacuer le stress.
Cleans up the stress.
Certains viennent nager et faire du sport, mais c'est surtout un lieu de rencontre. On vient se retrouver dans les bassins pour parler de politique. C'est un peu comme en France, dans les cafés, les jardins ou sur les bancs publics.
Et en effet, on trouve autour des grands bassins et des lignes pour nager plusieurs jacuzzi. Le plus chaud atteint 44 degrés. En moyenne, les Islandais viennent passer une heure ou deux presque quotidiennement pour se relaxer et retrouver les autres habitués. C'est le cas de Bilgir, 83 ans, qui se rend à la piscine tous les matins.
Ça fait 40 ans que je viens ici, c'est un mode de vie. Et pour moi, c'est un lieu de rendez-vous. Je sais toujours qui je vais croiser ici.
Un mode de vie, voire même un rituel indispensable pour affronter la rudesse du climat, selon Abel, ce trentenaire musicien.
La piscine, c'est en fait ce qui maintient les Islandais en vie, surtout pendant l'hiver. Ce n'est pas seulement à propos du corps, mais c'est surtout un moyen de ne pas perdre la raison.
À l'autre bout de la ville, au nord de Reykjavik, Asta préfère la piscine de Laugardaslaug. Pour la jeune femme de 25 ans, c'est autant l'occasion de faire du sport que de perpétuer une tradition familiale.
Ici, c'est la plus ancienne piscine du pays. J'ai toujours eu l'habitude de venir nager. Quand j'étais enfant, je venais là avec mes parents. Et ma mère avait même inventé cette recette qu'on appelait le poisson nageur, car elle mettait le poisson au four avant de partir à la piscine et on revenait juste à temps pour la fin de la cuisson.
À l'école, les cours de piscine sont obligatoires dès l'âge de 6 ans, une façon d'apprendre à tous les Islandais à nager, mais surtout de leur inculquer des règles d'hygiène particulièrement importantes dans le pays. Et d'ailleurs, touriste ou pas, quand on arrive, il y a 3 règles obligatoires à respecter que rappelle Anna derrière la caisse.
You have to take your shoes off.
Vous devez d'abord retirer vos chaussures avant d'entrer dans les vestiaires. Et puis, il faut faire en sorte que nos vestiaires restent entièrement secs. Et enfin, vous devez vous laver sans votre maillot de bain avant d'entrer dans la piscine. Nous avons toujours 3 types de savon dans les douches. En fait, nous utilisons très peu de chlore. C'est pour ça que nous demandons à tout le monde de se laver correctement.
Dans les vestiaires, des posters en plusieurs langues indiquent comment se laver et à quels endroits insister pendant la douche. Assises face aux cabines ouvertes, plusieurs femmes surveillent d'ailleurs que ces règles soient bien appliquées. Mais ici, aucun tabou, explique Asta. Dans les vestiaires, jeunes femmes et personnes âgées discutent complètement nues sans se soucier du regard des autres.
Ici, tout est très ouvert et les Islandais ne sont vraiment pas pudiques. C'est juste devenu normal pour nous. On trouve des piscines absolument partout. Vous pouvez vous rendre dans le moindre village de 300 habitants et il y aura une piscine.
À la campagne, des bilans de santé gratuits sont également proposés aux personnes âgées dans l'enceinte des piscines. Enfin, de nombreux Islandais n'ayant pas les moyens de partir en voyage à l'autre bout du pays, ils font ce qu'on appelle la petite boucle. Ils roulent ainsi de ville en ville en s'arrêtant dans chaque piscine municipale.
J'adore l'Europe, l'Europe c'est super, vive l'Europe, l'Europe c'est vraiment d'enfer, c'est trop bien, c'est trop bien, vraiment trop bien, trop bien.
J'adore Erasmus.
Ouais, arrête, c'est bon, non, okay. Stop.
Emino, bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors aujourd'hui, vous ne nous apportez pas de réponse sur le fond, mais vous avez décidé de revenir sur les choses de notre quotidien que l'Europe est venue malgré tout modifier.
Oui, aujourd'hui j'assume une chronique europhile, ou plutôt je vais vous donner quelques exemples très concrets de ce que l'Europe a changé dans nos quotidiens. C'est le site de classement en ligne Topito qui s'y colle, non sans humour. Première raison de célébrer l'Europe, c'est elle qui a instauré le remboursement d'une partie des billets de train en cas de retard de plus de 30 minutes. Bon alors dit comme ça, c'est sûr, on préférerait que nos trains arrivent à l'heure, mais la preuve que les bonnes pratiques européennes se transmettent d'un pays à l'autre via l'institution et que les madames et les messieurs en costume gris de Bruxelles œuvrent aussi à améliorer notre quotidien. Il a fallu 2 ans à la France quand même pour respecter ses engagements européens.
Ce qui marche pour les trains vaut aussi pour les avions, Eve.
Oui, là aussi, l'Europe a plutôt donné un coup de pouce aux consommateurs. Fini la débrouille, les compagnies aériennes qui vous laissent en plan, ou au contraire celles 5 étoiles qui prennent tout en charge en cas de pépin. Aujourd'hui, quand un vol a un peu de retard, une collation est offerte, l'information est obligatoire, et ça, c'est grâce à l'Europe.
Autre raison de se réjouir, nos téléphones portables, si précieux.
Oui, il y a encore 2 ans, quand on allait à Bruxelles ou Berlin, il valait mieux ne pas oublier son plan de la ville, car utiliser l'internet mobile en 3G coûtait une fortune. Cela faisait bien sûr les affaires des opérateurs de téléphonie mobile européens, bien décidés, même quand ils avaient des accords entre eux, à nous faire payer le plus possible. Recevoir ces mails à l'étranger dans un autre pays européen était un luxe. Aujourd'hui, heureusement, ce temps est révolu. L'utilisation des données mobiles au sein de l'Union européenne est désormais gratuite depuis décembre 2015, et ce, dans la limite de 90 jours par an. Tout de même, c'est une petite révolution.
Alors, l'Union européenne a apporté une autre révolution. C'est Erasmus, son charme, et puis ses galères, évidemment.
Bonjour, c'est pour une demande de dossier Erasmus.
Vous avez votre fiche d'inscription ?
Je viens de la récupérer.
Ouais. Bon alors, pour un dossier d'Erasmus, pour un DEA, c'est pas compliqué, ça vous devriez le savoir, c'est sur la petite fiche qu'elle a avec le dossier. Il vous faut l'accord de votre directeur de recherche ici, il vous faut l'accord, la signature de votre directeur de recherche là-bas, il vous faut l'accord de l'université d'accueil, l'accord de cette université, votre carte d'identité.
Ah, Erasmus, un programme régulièrement célébré dans ses chroniques et dans le cinéma français, L'auberge espagnole du réalisateur français Cédric Lapiche, dont on vient d'entendre un extrait, sorti en 2002, en a fait rêver plus d'un, dont mois, pour être très honnête. D'ailleurs, en parlant de cinéma, voici encore un domaine où l'Europe se montre généreuse puisqu'elle finance la création cinématographique sur tout le continent. À l'époque de l'Auberge espagnole, Erasmus était encore cette aventure un peu mal ficelée au système D, avant de devenir les véritables autoroutes de l'expatriation étudiante que l'on a connue dans les années 2000. Erasmus a pour beaucoup d'entre nous modifié notre manière de vivre, d'étudier, de regarder nos voisins européens. On parle même de bébé Erasmus, né de couples binationaux qui se sont rencontrés pendant leurs études, pendant leur échange universitaire. Alors bien sûr, rien n'est parfait. Beaucoup de jeunes n'ont pas pu en profiter, mais il n'y a pas à dire, c'est quand même le gros succès de l'Union européenne des 20 dernières années.
L'Europe a obtenu également de récents succès en matière de protection des données personnelles.
Oui, j'en parlais il y a deux semaines. L'Europe est aujourd'hui devenue le chef de file de la rébellion anti-GAFA. Vous savez, ce sont ces géants du net, Google, Amazon, Facebook ou Apple. Plusieurs fois, les députés européens ont mené des combats qui ont permis d'empêcher les grandes multinationales américaines d'utiliser les données personnelles des consommateurs européens, des internautes européens, et cela nous concerne tous. Les nouvelles dispositions adoptées en juin dernier fixent aussi les limites du profilage. Vous savez, cette technique qui permet, en recoupant les données personnelles, d'analyser et même de prédire les performances d'une personne au travail, par exemple, ou sa santé, analyser ses préférences sexuelles ou faire un bilan de sa situation économique, par exemple. Ça fait assez peur.
Alors Eve, que manque-t-il à l'Europe pour se faire réellement aimer ?
Alors le site humoristique Topito a sa petite idée et convoque pêle-mêle par exemple une équipe de foot avec les meilleurs joueurs des 27 ou 28 pays de l'Union selon que l'on accorde l'asile politique aux footeux du Royaume-Uni ou non. Un concours de Miss et Mister Europe ou alors enseigner l'espéranto partout dès le CP. Ma préférée personnellement, initier un programme Erasmus pour adultes qui soit obligatoire. Non, trêve de plaisanterie, les temps sont durs aujourd'hui pour l'Europe qui est un peu accusée de tous les maux et au-delà des quelques dizaines d'euros qu'elle nous aura fait économiser sur un billet de train ou un forfait de téléphone, l'Europe, c'est aussi une certaine idée de la mobilité, de l'ouverture et de la curiosité, et surtout une certaine idée de la paix qui nous a permis à tous, Européens, de ne pas nous livrer à des guerres fratricides que personne n'a envie de voir revenir.
Merci, Eve Minot, et on vous retrouve évidemment la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Hay vino tinto, blanco y rosado. Y también vino azul. Pero no estamos hablando de un vino con reflejos azulados, sino de un vino azul eléctrico.
Eh oui, ça pourrait ressembler à une blague, hein. Ils n'aiment pas spécialement le vin. D'ailleurs, ils n'y connaissent rien, mais cela ne les a pas arrêtés pour autant. Un groupe de jeunes entrepreneurs fait un tabac en Espagne depuis qu'ils commercialisent un vin bleu indigo. Le breuvage baptisé Geek a été conçu dans les laboratoires de l'Université du Pays Basque comme un défi entre étudiants. Martine Bouchard est allée voir.
Nous croyons en la rébellion créative, nous voulons rompre avec le passé, inventer l'avenir, nous allons changer le monde. L'avant-propos est plutôt aguicheur. Sur leur page web, les promoteurs du vin bleu vous invitent à savourer la révolution. Une mise en condition qui promet 90 000 bouteilles sont déjà vendues par an, un beau début pour ces 6 jeunes entrepreneurs de la génération des indignés. Oubliez tout ce que vous savez sur le vin, explique-t-il, même les traditions, par exemple celle du vin qui représente le sang du Christ à la messe. Vive la provocation, ces jeunes ambitieux n'y connaissaient rien, d'ailleurs disent-ils, on n'a pas besoin de s'y connaître en œnologie pour faire du bon vin. Il suffit de mélanger des raisins rouges et blancs, d'y ajouter quelques pigments naturels, de l'indigo et le tout est joué. La surprise est plutôt agréable au goût, selon les amateurs. Ne nous y trompons pas, la formation de ces joyeux compères est celle de brillants informaticiens, chimistes et designers. Ils se disent poètes, musiciens, de drôles d'artistes en somme. Ils ont créé ce vin bleu dans les laboratoires de l'Université du Pays Basque. Un défi entre étudiants pour déranger, secouer les choses, racontent ces joyeux lurons. Leur bureau, c'est le monde. C'est donc sur les réseaux sociaux, par internet, qu'ils vendent leur breuvage. Ils notent sur leur site internet qu'en psychologie, le bleu est associé à l'innovation, au mouvement, à la fluidité et au changement. En fait, ce vin est destiné aux plus jeunes pour faire la fête, la fiesta entre bons copains.
Merci à Françoise Grelot et Mathieu Salabert pour cette rediffusion de fin d'année. Ne zappez pas, vous êtes bien sur RFI. Dans quelques instants, un peu de patience, le journal.
Autour de la question.